Il va être 22h et le journal vous est présenté par Camille Marigaud. Bonsoir Camille.
Bonsoir Frédéric Worms et bonsoir à tous. La France porte des responsabilités lourdes et accablantes dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Selon le rapport de 15 historiens remis aujourd'hui à l'Élysée après 2 ans de travail, la notion de complicité de Paris dans ces massacres est en revanche écartée. Les précisions de Claude Guibal en début d'édition. Le Rwanda, de son côté, salue ce rapport qui pourrait peut-être rapprocher Paris et Kigali après des années de tensions. Nous serons aussi en ligne avec Alain Gauthier qui traque depuis plus de 20 ans les génocidaires rwandais sur le sol français. Dans cette édition également, protocole sanitaire renforcé dans les écoles des départements les plus touchés. Désormais, un seul cas de Covid-19 dans une classe entraînera sa fermeture contre 3 aujourd'hui. Et puis, l'ancienne chef du parquet national financier mise en cause dans le cadre de l'affaire dite des fadettes, Eliane Houlette, soupçonnée de fautes disciplinaires et de manquements à la déontologie. Le Premier ministre Jean Castex a saisi le Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui. C'est un dossier qui empoisonne les relations entre la France et le Rwanda depuis 25 ans. Emmanuel Macron a reçu cet après-midi les conclusions du rapport de la commission d'historiens chargée d'éclairer sur le rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsis au Rwanda. Plus de 1000 pages disponibles ce soir sur Internet et qui pointent de façon accablante la responsabilité de la France. Claude Guibal.
Les mêmes mots qui reviennent, la responsabilité, l'aveuglement, l'incapacité de la France à sortir de sa ligne politique d'origine, son soutien obstiné au régime Hutu de Juvénal Habyarimana et son refus à comprendre la complexité de ce qui était en train de se passer sur le terrain, malgré toutes les mises en garde. Tout cela a donc mené au terrible génocide des Tutsis au Rwanda, 800 000 morts en 3 mois. Tout au long de ce rapport, l'ombre d'un homme, François Mitterrand, la commission pointe la responsabilité de son état-major particulier, la qualifiant de très importante, un organe qui passe au-dessus de tous les canaux d'information pour influencer la politique de l'Élysée à ce moment-là, expliquent les historiens. François Mitterrand, selon les experts, aurait laissé faire sans jamais chercher à rectifier le tir ou sanctionner ses militaires. Les 14 experts ont eu un très large accès aux archives, y compris les plus sensibles, mais il en manque. L'Assemblée nationale a refusé la consultation des archives de sa mission d'information de 1998 et celle de Jean-Christophe Mitterrand, le conseiller Afrique de son père, alors président. Manque toujours à l'appel.
Et le président de cette commission d'historiens, Vincent Duclerc, est revenu tout à l'heure sur ce rapport et ses conclusions au micro de nos confrères de France Info. On l'écoute.
On a pu restaurer la chaîne en fait, de commandement. Hein, et oui, François Mitterrand donc, a décidé de cette politique et ceux qui l'ont appliquée de manière parfois aveugle, hein, avec une certaine violence sur le terrain, avec l'emploi de toute une pratique irrégulière, hein, il faut le souligner. Donc tout ça, effectivement, est très dérangeant quand même dans l'étude, dans le constat du fonctionnement de l'État républicain. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que plutôt que d'obliger Habyarimana à démocratiser, à cesser, je veux dire, sa politique raciste, eh bien, au fond, cette politique a poussé Habyarimana chez les extrémistes qu'il faut vraiment poser la question de cette faillite de la politique française au Rwanda qui a effectivement contribué aux conditions d'un génocide qui, à chaque moment, pouvait être arrêté. Dans cette affaire du Rwanda, il y a énormément d'occasions manquées. Je veux dire, la France aurait pu avoir une politique de lutte contre les préparatifs d'un génocide. Elle n'a rien vu et elle est restée dans une focalisation qu'on pourrait qualifier de néocoloniale.
Et le président de cette commission d'historiens, Vincent Duclerc, Kigali, a réagi ce soir à ce rapport, saluant, je cite, un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France dans ce génocide. Et pour aller plus loin sur ce sujet, notre invité ce soir est Alain Gauthier. Monsieur Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez avec votre femme Daphrosa Gauthier créé en 2001 le collectif des partis civils pour le Rwanda. Depuis 20 ans, vous voyagez entre le Rwanda et la France pour collecter les témoignages de victimes et proches de victimes et traduire en justice les génocidaires hutus réfugiés dans l'Hexagone. Alain Gauthier, d'abord, peut-être une réaction aux premiers éléments que l'on connaît de ce rapport ?
Il va falloir lire les 1200 pages que contiennent ce rapport, mais je peux dire que c'est probablement une grande avancée dans la reconnaissance de ce qu'a pu être le rôle néfaste, alors je ne dirais pas de la France, hein, mais de l'État français, des responsables politiques français de l'époque en 1994 par rapport au Rwanda.
Selon vous, comment ce rapport va-t-il être reçu là-bas par les Rwandais et leur classe politique et peut-il rapprocher Paris et Kigali ?
Je pense que effectivement, ce rapport va pouvoir assainir un petit peu les relations. Il est dit que le président Macron va se rendre prochainement au mois de mai au Rwanda. On espère qu'il va y apporter des paroles fortes. Il faut savoir quand même qu'au Rwanda, il y a longtemps qu'il n'y a plus d'ambassadeur. Donc, on peut espérer effectivement que ce rapport puisse resserrer les liens entre les deux pays, même s'il faut peut-être attendre après, si vous voulez, un peu de temps supplémentaire pour que toute la vérité soit bien dite.
Et Alain Gauthier, depuis 20 ans, je le disais, vous et votre femme traquez inlassablement les génocidaires réfugiés en France. Depuis sa création, votre association a déposé une trentaine de plaintes pour génocide devant les juges d'instruction. Votre collectif se porte aussi partie civile lors des procès devant les cours d'assises. Où en est-on de ce processus judiciaire et sait-on combien de ces génocidaires Hutus vivent encore en France ?
Alors, si vous voulez, nous ne cessons de dénoncer les lenteurs de la justice parce qu'en 27 ans, seuls 3 génocidaires ont été jugés et condamnés. Le dernier procès a eu lieu en 2018 et depuis, plus rien. Dire combien il y a de génocidaires encore en France, je crois qu'ils sont nombreux. Il m'est arrivé déjà de dire une centaine de personnes, je ne sais pas, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Mais il faut quand même savoir qu'il y a 42 personnes qui ont été visées par des mandats d'arrêt internationaux en France. La France a toujours refusé d'extrader ces Rwandais qui étaient réclamés par leur pays. Et s'il y a eu des procès en France actuellement, c'est uniquement parce que des associations comme la nôtre, aidées par d'autres associations, ont déposé des plaintes. Il a fallu attendre 2019 pour que le parquet se saisisse de lui-même d'un certain nombre de dossiers. Donc vous voyez qu'il y a encore un travail considérable à faire.
Alain Gauthier, merci à vous d'avoir répondu à ces questions. Vous êtes avec votre femme Daphrosa Gauthier à l'origine de ce collectif des partis civils pour le Rwanda. Vous réagissiez donc à la remise de ce rapport sur le rôle de Paris dans le génocide des Tutsis en 1994. En France, une situation épidémique toujours très critique. Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continue de progresser. 4766 ce soir selon Santé publique France. Un chiffre qui se rapproche du pic de la deuxième vague à l'automne. Matignon a annoncé ainsi le renforcement des contrôles dans les gares, les aéroports et aux péages routiers à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre, les préfets et les responsables sanitaires des 19 départements concernés par les nouvelles restrictions. Le Rhône, l'Aube et la Nièvre ont en effet rejoint la liste des territoires placés sous très haute surveillance, avec l'interdiction des déplacements à plus de 10 km sans dérogation ou encore le principe des demi-classes en lycée. Une situation sanitaire très inquiétante aussi dans les écoles. Plus de 3000 classes fermées ces 7 derniers jours, un record depuis la rentrée de septembre. Conséquence, le renforcement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires de ces 19 départements. Tout niveau confondu, annonce du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Et désormais, un seul cas positif dans une classe contre 3 aujourd'hui entraînera sa fermeture. Et mieux vaut tard que jamais pour Thomas Crochet, secrétaire général du syndicat des enseignants de l'UNSA, qui attend aussi une application stricte de cette mesure par les autorités locales. Et ce n'est pas forcément le cas partout aujourd'hui.
On arrive là, au pied du mur, et seulement pour les 19 départements. Donc on voit bien qu'à chaque fois, c'est seulement sous la contrainte et qu'ensuite, il va falloir encore plusieurs jours pour réussir à le mettre en œuvre. On voit que sur l'ensemble du territoire, les administrations locales rechignent beaucoup à fermer, alors qu'on a des situations très préoccupantes, des situations de grande désorganisation. Donc que l'on soit dans ces 19 départements ou dans d'autres, il faut être en capacité de fermer vite et pour une durée limitée, plutôt que d'en arriver dans quelques semaines à une fermeture générale de l'ensemble des écoles et des établissements, et ça pour ensuite de nombreuses semaines. Il y a aussi une ouverture qui est faite enfin sur le passage en demi-jauge dans les collèges, mais là aussi seulement dans les 19 départements. Or, on a des demandes qui sont faites par les chefs d'établissement depuis des semaines pour pouvoir passer en demi-jauge dans leurs établissements, parce que la configuration est vraiment très compliquée. Et là aussi, il faudrait davantage de souplesse de la part des autorités locales.
Des propos recueillis par Thomas Giraudot. L'Allemagne durcit les contrôles et les quarantaines pour les voyageurs qui viennent de France, d'Autriche, du Danemark et de République tchèque, des pays considérés comme zones à haut risque. Il faudra désormais présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures et se placer à l'isolement pendant 10 jours. L'Allemagne, où la justice retarde la ratification du fonds de relance européen, une dette commune de 750 milliards d'euros pour pallier la crise économique provoquée par la pandémie. Un dispositif suspendu par la Cour constitutionnelle allemande après une plainte déposée contre ce mécanisme inédit. La décision sur le fond devrait être rendue rapidement selon la Cour. Retour en France où le Premier ministre Jean Castex a saisi le Conseil supérieur de la magistrature ce vendredi pour des présomptions de faute disciplinaire concernant l'ancienne chef du parquet national financier Éliane Houlette. Une décision prise au vu de l'enquête administrative lancée dans la foulée de l'affaire dite des fadettes. Le PNF avait été mis en cause pour avoir épluché les relevés téléphoniques détaillés de Ténor du Barreau pour identifier qui aurait pu informer l'ancien président Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute. Florence Turm.
Parmi ses avocats, Éric Dupond-Moretti s'était emporté contre des méthodes de Barbouze et avait déposé une plainte pour atteinte à la vie privée, plainte retirée au soir de sa nomination en tant que garde des Sceaux. C'est Matignon qui avait ensuite repris la main sur le dossier et les deux enquêtes menées par l'inspection générale de la justice. Ce soir, Jean Castex précise d'abord que les magistrats du PNF ont, dans la conduite et le suivi de l'enquête préliminaire concernée, agi dans le cadre de la loi, mais qu'il existe des présomptions de faute disciplinaire concernant Éliane Houlette, plus précisément dans son comportement managérial et de possibles conflits d'intérêts entre son exercice professionnel et ses relations privées. L'ancienne chef du PNF, qui a pris sa retraite en 2019, avait refusé de répondre aux convocations de l'inspection générale de la justice pour des questions de principe, indique son avocat, mais elle se rendra à celle du Conseil supérieur de la magistrature, qu'elle considère comme le seul organe compétent pour apprécier la réalité des faits. Elle n'est pas la seule à devoir s'y présenter. Patrice Amar, le premier vice-procureur financier en charge du dossier à cette époque, devra également s'expliquer sur ce que Matignon présente comme différents éléments susceptibles de faire naître un doute sérieux quant au respect de ses obligations déontologiques. Le dossier est donc désormais entre les mains du CSM à qui il revient de prononcer, le cas échéant, des poursuites disciplinaires.
Florence Turm. L'Église catholique veut assumer sa responsabilité devant la société pour les crimes de pédocriminalité commis par ses membres. Les évêques de France, réunis depuis le début de la semaine en assemblée plénière, ont décidé de prendre de nouvelles mesures en faveur des victimes. Parmi elles, le versement d'une contribution financière, mais aussi le principe d'une journée de prière chaque année à la mémoire de ces victimes, ou encore l'installation d'un lieu de mémoire de ces violences. Quatre collaborateurs de l'hebdomadaire Charlie Hebdo accusés d'avoir insulté le président Recep Tayyip Erdogan après une caricature publiée l'an dernier. On voyait le chef d'État dessiné en slip, une bière à la main, soulevant la robe d'une femme voilée. Un procureur turc réclame aujourd'hui 4 ans d'emprisonnement contre eux. L'ONG Reporters sans frontières accuse de son côté Ankara de vouloir, je cite, « élargir la censure au-delà de la Turquie ». Un wagon projeté en l'air dans un immense nuage de poussière. Les images saisissantes de ce drame ferroviaire en Égypte. Au moins 32 morts et plus de 150 blessés après la collision entre deux trains dans le sud du pays. Selon l'autorité égyptienne des chemins de fer, les deux trains roulaient sur la même voie, dans le même sens. Le président Abdel Fattah Abdelaziz Al-Sissi promet des sanctions envers les responsables de l'accident. Bientôt, un vaccin 100% brésilien contre le Covid-19. Le centre de recherche médicale de Sao Paulo, qui produit la majorité des sérums du pays, qui l'indique aujourd'hui, des premières injections dès juillet dans ce pays où la vaccination avance lentement et où la pandémie continue de faire des ravages avec près de 300 000 morts. Un bilan qui ne laisse pas indifférent l'ancien président Lula qui, dans une interview au journal allemand Der Spiegel, évoque, je cite, le plus grand génocide de l'histoire du pays. La crise du Covid, instituée plus que la guerre du Paraguay au 19e siècle, elle avait fait 50 000 morts, un terme extrêmement fort utilisé par Lula qui cherche en fait à s'aligner avec la société civile et l'opposition à Jair Bolsonaro. À Rio de Janeiro, Anne Vigna.
C'est d'abord l'influenceur digital Felipe Neto qui a utilisé en premier ce terme. En accusant le président Bolsonaro de provoquer un génocide avec la Covid, Felipe Neto a reçu la visite de la police chez lui. Le jeune influenceur aux 40 millions d'abonnés n'a pas reculé. Il a détaillé les raisons de l'utilisation de ce terme génocide sur ses réseaux sociaux, provoquant une avalanche de hashtags Bolsonaro génocidaire. Désormais, ces deux mots sont partout. Ils sont tagués sur les murs et les opposants politiques du président les citent à la tribune. Ainsi, Lula, qui a retrouvé récemment sa liberté de parole, attaque très durement le président sur sa gestion de la crise. Lula prend également les habits du chef de l'État en demandant aux responsables politiques d'organiser un G8 et un G20 pour traiter au plus vite de la pandémie.
Un mot du temps pour demain samedi. Le matin, ça se rafraîchira, des averses possibles au nord de la Seine. Un ciel dégagé de l'ouest au centre et plus couvert au sud-est. Côté mercure, des minimales entre 1 et 8 degrés. Pour les maximales, entre 10 et 20 degrés. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau et Jean-Frédérix à la technique.